Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre dans le studio de Radio Foot International sur RFI en cette soirée de Ligue des Champions, match retour des huitièmes de finale et où il existe peut-être, en tout cas on y croit, Radio Foot, peut-être du suspense. Du suspense du côté de Madrid, qui tout double, ça passe ou ça casse pour ce Real au pied du mur. Les Merengues jouent ce soir leur saison sur un match de Ligue des Champions donc, après leur déroute dans les deux récents classicos. Les joueurs madrilènes doivent se qualifier face à l'Ajax d'Amsterdam et son insolente jeunesse décidée à marquer les esprits. Le Real a bien un avantage, il a gagné à l'aller mais il semble fragile, peut-être même en danger. Puede ser. Et à Dortmund, le Borussia peut-il lui se qualifier en éliminant Tottenham? Les jaunes et noirs sont revenus de Londres avec un lourd handicap de 3 buts. Plus qu'un exploit, ce serait un miracle ou une remontada. On dit comment une remontada en allemand, David Lortolari?
Vous me posez le col, Annie. Enfin, ça sera forcément un mot compliqué avec Zurück, avec Wiedert, avec des choses comme ça.
David Finzel a décidé que c'était Dutch remontada. C'est pas mal, oui. Ça vous plaît?
Oui, hein, ça parle.
on verra ça en tout cas. Il y a O9, vous nous répondrez à cette question. Et puis la France, large vainqueur de l'Uruguay chez les filles. Les Bleus ont inscrit beaucoup de buts et poursuivent leur préparation pour la Coupe du Monde. Leur reste-t-il encore beaucoup de travail à ces Bleus motivés par l'enjeu de jouer à domicile? Éric Chorin, qui rentre de Tours, nous racontera un peu cette préparation. Il y a donc David Lortolari, il y a aussi Gilles Verdez à vos côtés. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Et puis il y a Philippe Doucet. Bonjour monsieur.
Bonjour madame Annie.
Vous allez bien?
Ça va.
Et puis Christophe Jousset est ici bien sûr. Bonjour Christophe.
Bonjour Annie. Bonjour
Radio,
à tous.
Radio Foot, c'est parti. L'heure de vérité a sonné donc pour les triples champions d'Europe en titre, les Merengues, toujours ce soir à Santiago Bernabéu, leur qualification eh bien en huitième de finale contre l'Ajax, avec a priori un avantage, celui de la victoire ramenée d'Amsterdam, victoire 2-1, mais cette victoire n'avait pas été si facilement acquise et depuis le Real eh bien, a enregistré des défaites, 3 sur sa pelouse, contre des clubs catalans d'ailleurs, contre Gérone et puis contre le Barça. 2 classicos perdus coup sur coup et une élimination en Coupe du Roi qui fait suite eh bien, en plus à un éloignement au classement de la Liga. Le Real n'est que 3e. Alors, Luka Modric l'a reconnu hier, nous sommes touchés. Leur entraîneur, lui, ne le reconnaît qu'à demi-mot, Santiago Solari.
Nous voulons gagner, franchir ce tour. L'équipe a beaucoup de caractère et j'en suis très fier. Nous devons davantage concrétiser nos occasions, être plus présents dans la surface. Le facteur chance compte aussi. Le vestiaire est solide, ses joueurs ont du caractère. Cela ne veut pas dire qu'ils soient contents de ce qui s'est passé, mais ils ont la conscience tranquille.
Alors, ils ont leur conscience tranquille. Il y a aussi 94% des équipes qui ont gagné à l'extérieur 2-1 qui réussissent évidemment à passer au prochain tour. Et pourtant, Gilles, il y a un petit doute même du côté de l'Espagne où on envisage pourquoi pas une élimination. Est-ce que vous l'envisagez?
Le Real a déjà perdu, en fait. Pourquoi il a déjà perdu? Parce que votre débat est tout à fait légitime. C'est la première fois dans l'histoire qu'on voit un Real ayant gagné 2-1 à l'extérieur, sur lequel on se pose des questions. C'est ça qui est incroyable. C'est la fragilité conjoncturelle, et peut-être même la structurelle pour lui, du Real Madrid en ce moment. Il y a un entraîneur qui a mis de côté des joueurs. Il y a Bale qui fait des caprices, qui quitte le stade avant la fin des matchs quand il est sorti. Il y a de grosses incertitudes. Le score 2-1 était très flatteur pour le Real. Donc, il y a plein de questions. C'est le match qui, pour moi, est un peu incertain. C'est-à-dire qu'on envisage que l'Ajax puisse marquer un premier but, 1-0, et après, tout deviendrait possible.
David Lortolari, vous avez l'air d'être d'accord.
Oui, il y a quand même beaucoup d'arguments qui s'ajoutent à ce que vient de dire brillamment Gilles. Modric, un joueur essentiel, n'est pas dans ses souliers en ce moment. Toni Kroos, on l'a jamais vu aussi incertain.
Oui, on se demandait tout à l'heure, en préparant l'émission, où sont les cadres? Où sont les cadres du Real, finalement?
Lui particulièrement, qui a toujours été réputé, qui a construit sa force sur ce jeu de passe si précis, sur le jeu aussi bien long que mi-long, et sur cette espèce de d'infaillibilité. Aujourd'hui, Toni Kroos n'y est pas. Il est hors sujet, à l'image de quasiment du reste de l'équipe. L'absence de Sergio Ramos aussi. mais volontaire, mais
l'effet psychologique
absent.
Du classico, est-ce que ça, pour vous, parce que on entend Santiago Solari qui dit non, l'équipe est forte, elle a du mental et tout ça, mais ils ont été touchés, il le reconnaît.
Oui, et
Même Luka Modric le reconnaît aussi, c'est-à-dire que quand même prendre deux défaites comme ça, pas sur le même score, avec un peu moins la deuxième fois que la première, mais en tout cas deux défaites sur sa propre pelouse, ça a un impact.
De Madrid, on nous dit que c'est un coup derrière la tête qu'a pris le Real, clairement, face au Barça dans les confrontations récentes. Cependant, je ne sais pas si je vais empiéter sur ce que Philippe souhaiterait à dire, mais cependant, pour moi, il y a quand même deux choses qui parlent en faveur du Real. La première, c'est que le mode championnat, le mode national n'est pas le même pour un club comme celui-là que le mode Coupe d'Europe, Ligue des Champions. Et d'autre part, le Real, entre guillemets, il lui suffit d'avoir le moment favorable ce soir, un seul, un but, la concrétisation d'un temps fort, et ça peut suffire.
Philippe, cet effet classico, parce que quand même on n'a pas vu une équipe fringante face au Barcelone. Barcelone n'était pas non plus flamboyant, mais en tout cas à chaque fois ils ont perdu.
Barcelone a été efficace. Bon en première période et un peu calculateur après, parce que eux ils jouent la Liga. Et moi je trouvais que le Barça avait quand même été très très solide et que le niveau, nonobstant tous les commentaires que j'entends, oh, c'est un petit classico, machin, excusez-moi, moi, le lendemain soir, parce que j'étais à Madrid pour voir le match, le lendemain soir, je me suis tapé Marseille-Saint-Etienne, je me suis dit, tiens, je comprends pas le petit match que j'ai vu hier. Je comprends pas bien le petit match que j'aurais vu hier à Madrid, je vois pas très bien où il est. Non, il faut s'en rendre compte quand même que ça reste des monstres. Alors évidemment, le Barça est une meilleure équipe collectivement que le Real. Moi, j'étais très étonné, parce que j'ai eu la chance de pouvoir diriger. J'ai rencontré quelques dirigeants madrilènes, etc. Ce qui était intéressant de voir l'état d'esprit, etc. J'étais étonné de la tranquillité. Ils avaient perdu quand même deux fois contre le Barça de suite dans la semaine. Ils avaient perdu trois fois de suite à l'extérieur parce qu'ils avaient à domicile, pardon. Ils avaient perdu le match d'avant à Bernabéu contre. Et la tranquillité avec laquelle ils me disaient non, mais nous, l'important c'est la Ligue des Champions. Ah bon? Mais là, tout le monde serait en crise, tout le monde serait affolé, tout le monde serait...
Ils ont fait l'impasse, dans leur tête?
Bon, ils l'avaient pas fait volontairement, l'impasse. Ils ont été dominés par le Barça, ils ont été moins bons, ils ont fait un match très moyen d'ailleurs. Ils ont été meilleurs en coupe, où ils ont perdu paradoxalement 3-0, mais ils ont été bien meilleurs en coupe. Là franchement, ils sont passés à côté du match. Ils ont même pas vraiment inquiété le Barça. Mais ça demeure des maisons extraordinairement solides. Alors, il y a ce mot fragile qu'a employé Gilles tout à l'heure. Je pensais le Real fragile en 2017. Je le pensais fragile en 2018. Ils ont gagné deux Ligues des Champions. Il faut quand même s'en souvenir.
Donc ils vont gagner une quatrième.
Je ne dis pas ça, mais je sais à la sortie de ce match Real-Barça, je sais que pour sortir ces équipes-là, excusez-moi, je vois un petit peu des matchs partout en Europe, mais il va falloir être très très costaud pour les sortir l'une et l'autre.
Hein. On va y venir.
Ce ne sera pas des amateurs qui les sortiront.
On va y venir.
La grande différence quand même, c'est que toutes ces années folles du triplé européen, il y avait globalement deux héros, Zidane et Cristiano Ronaldo, qui ne sont plus là. Et ils n'ont pas été remplacés. Modric le dit, où est notre buteur? Et tous les supporters le disent, où est notre entraîneur? Moi j'ai l'impression
votre buteur, il va être sorti en huitième de finale, je vous rappelle.
Oui, mais ok, peut-être. Attendons un peu quand même. 0-2, rien n'est fait.
Là, il est tout seul, il n'y a pas Zidane avec lui.
Mais c'est vrai que j'ai l'impression, au-delà des matchs, j'ai l'impression que c'est sur la saison quasiment que le Real a tiré un trait. C'est-à-dire qu'ils se rendent bien compte qu'un quadruplé, là, ça serait du miracle absolu. La Liga, c'est fini, la Coupe, c'est fini.
Qu'est-ce que ça compenserait finalement dans les esprits, un quadruplé européen? Parce qu'on a l'impression que...
Alors, vous avez raison, en Espagne, c'est vraiment le titre qui compte.
Bah oui.
Les héros, ce sont les champions nationaux. La Liga a pris le pas, nettement. Et donc, tellement la lutte est âpre entre les trois équipes stars. Donc, la Liga, c'est la référence. Et cette saison, pour moi, le Real a presque déjà tiré un trait dessus.
Alors, quand on se demandait tout à l'heure où sont les cadres de ce Real Madrid, alors on sait que par exemple Sergio Ramos, l'emblématique capitaine, ne jouera pas, sanctionné de deux matchs finalement, et non plus d'un, pour son deuxième carton jaune volontaire.
Ça, c'est quand même symptomatique de la confiance de cette équipe, c'est extraordinaire. quand vous regardez le Ajax-Real, et que vous vous dites quand même le Real s'en sort bien à 2-1, Ramos fait exprès d'être exclu
à la 87e ou 88e minute,
de prendre un carton jaune et d'être suspendu, vous vous dites quand même, il faut avoir vraiment un melon extraordinaire.
À moins qu'il ait voulu fuir la débâcle, peut-être.
Ah bah non, non, il faut avoir un melon extraordinaire pour se dire, après ce petit match contre l'Ajax où ils ont souffert 1000 morts, pour se dire, bon, de toute façon, maintenant on a gagné 2-1, c'est bon, c'est gagné.
Je serai pas au retour.
J'ai pas besoin d'aller tout de l'heure au retour. C'est inouï, quoi.
En tout cas, lui, il n'y sera pas. Et puis, eh ben, on se demande aussi où sont les grands noms de cette équipe, notamment orpheline côté offensif. On pense à Isco. On pense aussi à, sur d'autres postes, Marcelo, Kroos ou Casemiro. Et donc, Gareth Bale. En tout cas, il y a un observateur très impartial qui lui aussi observe les défaillances de cette équipe. Il s'appelle José Mourinho.
Somebody has to score.
Il faut bien que quelqu'un marque. Tout le monde doit en faire un peu plus. Benzema le fait, lui. Il marque plus de buts qu'avant. Il travaille mieux qu'avant. Il a l'air physiquement plus fort qu'avant. Peut-être pas sur ce match, mais il a beaucoup joué avant. En revanche, les autres joueurs, et surtout ceux qui jouent sur les ailes, eux ne marquent pas assez. Ajoutez à cela un milieu qui campe sur ses positions. Sur le triangle Casemiro, Modric, Kroos, aucun, par exemple, n'est capable de faire la course de Rakitic.
The run that Rakitic did.
C'est le milieu.
Il est en train de faire son recrutement pour la saison prochaine, Sergio Herrera, on a l'impression
compris,
là.
C'est pour ça que je vous ai dit qu'il était impartial.
Bah, oui. Mais Benzema sera donc titulaire et capitaine,
là.
Voilà. Au milieu de terrain, on sait pas, sur les côtés, non, il faudra des renforts. Et on a l'impression qu'il est en train
sur
de se placer.
La liste des transferts.
Ah, ouais, bah, oui oui, bah
le plus cher possible.
Son nom est cité parmi les puisque maintenant
absurde, absurde.
Non, mais son nom est cité et puis peut-être
mais
que lui il cherche un club.
Je sais pas par qui.
Dans la presse espagnole,
on dit
Georges Mendes n'a même pas l'accès à Florentino Pérez. Comment voulez-vous que Mourinho arrive? C'est même pas concevable.
D'abord sur ce milieu de terrain, est-ce que c'est ça le point faible du Real cette saison, on va dire? Gilles, est-ce que vous êtes d'accord à José Mourinho?
Non, pour moi c'est pas le point faible. Le point faible, c'est il y en a plusieurs, mais offensivement, c'est vrai qu'il manque un grand buteur. Benzema fait une très belle saison. Mais il était idéal dans le rôle de pourvoyeur de CR7. Dans le rôle de soliste, c'est encore compliqué.
Là, c'est Vinicius qui lui pourvoie des ballons.
Voilà, donc Vinicius sera très bon, mais ne l'est pas encore. Côté droit, c'est moins bon, c'est moins fort. Donc, offensivement, je trouve que le Real est en nette perte de vitesse.
Oui, bah il y a le cas évidemment Gareth Bale qui est un peu dans l'œil du cyclone en ce moment, qui avait été choisi d'ailleurs pour être titulaire au match aller plutôt que Lucas Vázquez. Ça n'avait pas été une franche réussite. Ce soir, a priori, on devrait voir Lucas Vázquez.
Je pense, oui. Après le match qu'a fait Bale contre le Barça, je pense que c'est réglé.
Écoutons Luka Modric qui hier au micro de Pierre Chaperon essaye de prendre la défense, je dirais évidemment, de son camarade de jeu.
Gareth.
Gareth va bien, je trouve qu'il va bien. Il est dans une période de sa carrière où il n'est pas au mieux, mais ça nous est tous arrivé, à moi y compris. Il doit continuer à travailler. Je le vois heureux et désireux d'être le Gareth que nous connaissons tous. On ne peut pas oublier ce qu'il a fait pour le club. On dirait qu'ici, les gens oublient facilement. Il n'est pas dans sa meilleure forme, mais il travaille. Il veut redevenir le Gareth qu'on a toujours connu et aider l'équipe pour le reste de la saison.
Sixième saison, effectivement, pour Gareth Bale. Des fois, on s'en souvient pas.
Oui, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de lui en ce moment. Il y a aussi l'intervention de son agent, là, qui... Alors, est-ce qu'il lui a rendu service ou pas? En tout cas, il l'a défendu de manière très virulente en disant que les supporters ne devraient pas critiquer Gareth Bale comme ils le font actuellement. Gareth Bale qui... alors, je sais pas si l'information a été vérifiée, d'ailleurs. Est-ce qu'il a vraiment quitté, vous qui y étiez, Philippe, le stade?
Vous l'avez vu partir, Philippe?
Moi, comme je suis resté, je l'ai pas vu partir.
Avant la fin du match, je suis resté jusqu'à la fin. Il est sorti, on l'a pas vu rentrer.
C'est pas la première fois qu'il fait ça.
Il semblerait que la formation soit vérifiée. Il a d'abord été sur le banc. Et effectivement, ça, je l'ai vu. Et il est parti vraiment au bout de 2 minutes. Maximum. Il a passé 2 minutes sur le banc. Et il est parti au vestiaire. Et il semblerait effectivement qu'il ait quitté le stade après, ce qui apparemment n'est pas la première fois.
C'est quand même quelque chose, quoi.
Oui, c'est quelque chose.
Un joueur, en plus de cette dimension-là, qui ne reste pas avec physiquement,
et puis dans ce club-là aussi
de l'équipe.
Ouais. Ouais, ouais.
Et aux côtés de son équipe, dans un classico qu'ils sont en train de perdre, c'est incroyable.
Et à Madrid, dès que vous touchez à l'institution, que vous bafouez l'institution, votre carrière,
même si vous
appelez
Ronaldo, même si vous appelez Ronaldo.
Donc a fortiori, Gareth Bale, ça va être très compliqué pour lui de rester.
Alors, il restera pas.
Sur qui compter ce soir?
sauvé l'année dernière, parce qu'il faut pas l'oublier quand même, c'est lui qui fait la décision en, oui, en finale de la Coupe de la Ligue des Champions, alors qu'il fait une saison.
Oui, c'est ce à quoi fait allusion
Modric. Très médiocre, et à l'arrivée, c'est lui qui gagne la finale de la Ligue des Champions.
Il a l'air très fragile, là, si vous parlez de Real fragile, alors lui.
Cette fois-ci, il restera pas.
Les blessures. Mais alors, sur qui compter ce soir, du côté du Real?
Il y a le gardien Thibaut Courtois. Il y a quand même du monde, il y a quand même une bonne base, quoi.
Oui, à commencer par le gardien de but, Philippe.
Oui.
Qui fait quand même, qui tient quand même à peu près son rang ces derniers temps. Et puis, enfin voilà, ils ont gagné 2-1 à l'extérieur, donc si par hasard il y avait 0-0, c'est bon pour le Real.
Alors en face, Christophe Jousset, en face, on a une jeunesse qui semble n'avoir peur de rien. On l'avait vu au match aller, hein, elle s'était pas laissée engourdir par le nom, par le prestige, par le palmarès. Elle a des jeunes pleins de talent, on le sait de Francky De Jong, puisque l'année prochaine il jouera du côté du Barça, qui en principe choisit bien ses recrues. Il y a aussi ce De Ligt, je sais pas comment on dit,
De Ligt.
Donc le défenseur capitaine. Et puis il y a un certain international marocain.
Oui, il y a Hakim Ziyech, alors qu'on suit depuis quelques saisons déjà maintenant, et qu'on a vu à la Coupe du Monde avec le Maroc, et qui a été un des meilleurs joueurs à l'occasion du match aller il y a 3 semaines. Il a marqué un but, en plus c'est lui qui a marqué le but de l'Ajax. Donc il a bientôt 26 ans, et en fait les gens connaissent son histoire, hein. Il est né aux Pays-Bas, il est international marocain, il a d'abord commencé par les équipes de jeunes des Pays-Bas avant de choisir le Maroc en 2015, et en fait il semble qu'il soit mûr maintenant pour aller voir ailleurs, hein, puisqu'il a fait toute sa carrière aux Pays-Bas. Il a eu 3 clubs, il a eu Heerenveen, il a eu Twente, et depuis 2016 l'Ajax d'Amsterdam, avec des stats qui sont quand même assez impressionnantes, hein. 85 matchs du championnat des Pays-Bas sous les couleurs de l'Ajax, et 30 buts, 35 passes décisives. Donc certains diront ce n'est que le championnat des Pays-Bas, et on aimerait le voir sous d'autres latitudes pour voir si il passe le cap.
Philippe, c'est l'avantage de la jeunesse dans tout cet effectif, et notamment pour
oui, même si Ziyech n'est pas le plus jeune, hein,
Fond. Les autres ont 21 ans.
Mais globalement, c'est une équipe très jeune, très qui est pleine d'allants. Ils ont à nouveau une très belle génération, ce qui malheureusement arrive pas tout le temps, parce que même l'Ajax, il y a des trous, il y a des moments où il faut faire sans. Bon, ils ont fait quand même une finale d'Europa League il y a 2 ans, qui était un prémisse, des prémisses intéressantes. De Ligt, qui avait 18 ans, jouait déjà, etc. Donc c'était tout ça.
Bertrand Traoré encore.
Tout ça, on le voyait venir, absolument, avec Bertrand Traoré. Tout ça, on le voyait venir, mais il a fallu quand même, effectivement, que Ziyech prenne une autre dimension. Ils ont pris Tadic, qui était un joueur qui est pas inintéressant, et puis l'avènement de Frankie de Jong, effectivement. Mais sur ce que j'ai vu au match aller, malgré tout, malgré mon penchant, moi j'adore ce football. Ce match-là était le plus enthousiasmant des matchs aller, avec celui de ce soir également. D'ailleurs, Tottenham, Dortmund, ça a été les 2 meilleurs matchs. Tout le reste était pas forcément passionnant. Ceux-là étaient 2 matchs remarquables. Donc on a envie, mais malgré tout, je crois que le poids de la jeunesse va jouer contre l'Ajax. J'en ai très peur.
Et puis ils ont été extrêmement séduisants, les joueurs de l'Ajax, mais ils ont perdu.
C'était un détail, vrai, un domicile. C'était vrai aussi dans cette double confrontation en match de poule contre le Bayern, où dans les 2 fois, ils ont été très supérieurs dans le jeu, dans ce qu'ils ont proposé, l'emballement, l'enthousiasme. Tous les joueurs cités, moi, m'avaient bien impressionné. Tadic aussi en attaque, De Jong bien sûr, De Ligt, le gardien aussi, Onana, qui avait fait de très belles prestations. Mais dans les 2 cas, comme le disait Christophe là, contre le Real à l'aller, dans les 2 cas contre le Bayern, ils sont meilleurs que les joueurs allemands, mais il y a 2 matchs nuls à l'arrivée.
Malgré tout, Gilles, on parle, quand on dit où sont les cadres, par exemple, du côté du Real, c'est vrai que c'est une équipe un peu presque de vieux grognards, on a l'habitude de les voir, et ils ont un certain âge, déjà, pour des joueurs de foot, par rapport, par exemple, à cette jeunesse de l'Ajax. Et en même temps, quand on voit quelqu'un comme Mbappé, on se dit, mais l'avenir, ou Vinicius, ou d'autres, c'est peut-être aussi une modification, disons, dans les lectures des matchs maintenant, et peut-être que la jeunesse peut aussi l'emporter, finalement.
Oui, moi j'y crois à cette jeunesse, hein. C'est vrai que vous parliez de Ziyech, 14 buts, 9 passes décisives, donc lui il a la double panoplie, il peut tout faire. Cette jeunesse-là, elle dispute aussi le match de sa génération, puisqu'en fin de saison, ils vont s'égayer dans la nature,
sans doute,
pour des 50 ou 60 millions d'euros de transfert, des salaires mirobolants. Donc maintenant, le problème de l'Ajax, c'est que ces générations, elles vivent sur des temps très courts, puisque les joueurs sont tout de suite ciblés, ils n'ont même plus le temps de s'épanouir dans le club. Ils s'épanouissent personnellement, mais il faut à chaque fois se renouveler. Et Philippe le disait, c'est très compliqué de le faire en permanence. Mais ces joueurs-là, à mon avis, là, ils disputent le match de leur vie à l'Ajax. C'est-à-dire qu'après, ils seront ailleurs. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Qui y croit?
Moi, je crois qu'ils vont marquer. Donc, à partir du moment où ils marquent, le Real peut commencer éventuellement, non pas à trembler, mais à avoir les jambes légèrement flageolantes.
Il faut marquer deux fois, hein, Gilles.
Oui,
je vous rappelle.
Oui, à partir du moment où il y aura un but, le Real peut douter.
Ça serait bien quand même pour
le spectacle.
Pour le spectacle proposé au match aller, déjà, que au moins ils inquiètent et qu'ils poussent un peu le Real dans leur retranchement. Et puis, si on veut parler de pression, je pense que l'Ajax n'en a pas ce soir. Parce que, comme le disait Ziyech lui-même, ils ont déjà réussi leur parcours en Ligue des Champions.
Donc. Déjà, être en 8e pour eux, c'est fantastique. On est loin du temps de 95 où l'Ajax pouvait gagner la Ligue des Champions. Ça, c'était avant l'arrêt Bosman. Aujourd'hui, c'est impossible. En face, c'est des sélections mondiales. Que ce soit le Real, la Juve, le PSG, le Barça, etc. C'est des sélections mondiales. C'est impossible, impossible de lutter pour des clubs qui travaillent remarquablement comme l'Ajax. En 95, il l'avait fait avec une équipe très très jeune. Bon, il y avait juste Rijkaard qui était l'ancien de la troupe au milieu qui était revenu au club. Mais c'était avec des jeunes, on pouvait gagner la Ligue des Champions. Aujourd'hui, c'est même pas imaginable, mais J'espère, on verra ce soir.
On verra ça donc, coup d'envoi à 21h sur la pelouse de Santiago Bernabéu. Et donc, la Dutch remontada, David Dantolari, existe-t-elle?
La chevauchée des Valkyries, appelons la remontada, nommons-la la chevauchée des Valkyries.
La chevauchée allemande.
Est-elle plus célèbre que le mur jaune? Oui, quand même, je pense.
Ouais, je pense, j'espère.
Espérons pour Wagner, en tout cas. Le terme espagnol, donc, suffirait bien au bonheur de cette équipe allemande, mais à l'aller, les joueurs de Dortmund... On peut dire que c'était écroulé quand même. Hein. Oui. Ils ont encaissé 3 buts de la part de Tottenham. Ils sont donc condamnés à l'exploit. Est-ce possible? Eh bien, leur star, Marco Reus, celui qui, cette fois-ci, lui aussi est sur pied, n'est pas blessé et peut participer au match. Marco Reus y croit.
Je crois que nous sommes en position pour réaliser l'impossible. Je pense que c'est très important d'y croire. Bien sûr, nous devrons livrer une grosse prestation et marquer des buts au bon moment. Ce sera aussi très important de trouver un équilibre entre l'attaque et la défense, car nous savons que s'ils marquent, cela rendra les choses encore plus difficiles. Mais tout le monde ici pense que c'est possible, donc nous devons nous aussi y croire.
Nous devons y croire, mais du côté de Tottenham, où l'on doit être soulagé de voir que Harry Kane, lui aussi le pendant de Marco Reus, finalement va être là, il sera de retour, on reconnaît que tout est possible, et cela c'est Hugo Lloris qui le dit.
Dans le football, tout est possible, c'est sûr que si on commence à montrer des doutes un peu à mi-temps, à Dortmund tout est possible, ils ont une équipe très offensive, très joueuse. Donc il va falloir y aller avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'envie, avec l'envie également de marquer un but à l'extérieur, voire deux, de gagner le match.
Alors avec des espoirs des deux côtés, évidemment, avec un handicap 3, comme on dit au golf. c'est surtout deux équipes qui traversent des périodes similaires pour ce qui est des championnats, enfin en tout cas des compétitions sur le plan national. Exactement. Les deux, ça va pas très bien. Ce week-end, David Lortolari, en Bundesliga, le BVB a été rattrapé par le Bayern.
Il n'y a plus que deux petits buts d'écart de différence, de buts. Le nombre de points a été réduit à 0 alors qu'il a été jusqu'à 9. Et en fait, on peut faire une synthèse assez rapide, même si évidemment ce ne sera que partiel. L'absence de Marco Reus, à partir du 5 février, il s'est blessé en première période du match de coupe contre le Werder Bremen, finalement perdu au tir au but, alors qu'ils ont mené 2 fois en prolongation. Depuis lors, Dortmund est à l'arrêt complet. Alors je veux pas donner une dimension démesurée à Marco Reus, mais c'est un joueur qui est maintenant capitaine depuis cette saison, qui dépasse ses fonctions aussi en dehors du terrain, qui a une des missions d'ambassadeur, de marketing, qui assume, qui est passeur, qui est buteur. Quand cet homme-là est absent, la jeune troupe est perdue. Ils n'ont plus leur boussole. Donc ça, c'est l'espoir premier, l'espoir principal pour ce soir. C'est la chose peut-être la plus solide à laquelle on peut se raccrocher côté Dortmund. Avec Royce, les choses sont plus fluides, sont plus inquiétantes pour l'adversaire. Et lui sait tout faire. Donc il peut être un danger et il peut être la... clairement la rampe de lancement pour Dortmund.
Philippe, alors même s'il peut être la rampe de lancement, il y a 3 buts à remonter et en face c'est quand même un Tottenham alors qu'il va lui aussi pas très bien en championnat. Ils ont arraché ce match nul contre Arsenal, mais avant ils avaient perdu contre Chelsea et tout. Ils sont pas forcément dans une bonne dynamique.
Non, Tottenham est un peu à pied. Ils ont largement cédé alors qu'ils étaient... Ils jouaient le titre, alors ils étaient quand même dans l'ombre de Liverpool et Manchester City, mais ils n'étaient pas très loin, ils étaient à 3-4 points. Et puis là, tout d'un coup, là, vraiment, ils ont décroché, là, c'est terminé. Il faut maintenant préserver la troisième place, ou au pire, la quatrième, pour être vraiment dans les... Et ça revient vite derrière, avec Arsenal qui a été meilleur que Tottenham samedi, et United qui marche fort aussi. Donc, effectivement, c'est pas une bonne période pour Tottenham, mais ils ont un avantage énorme, parce que ces 3 buts, c'est considérable. C'était d'ailleurs, ça a été le fruit d'une très bonne deuxième période, mais enfin, si vous regardez la première période, moi j'ai cru que Dortmund allait les plier littéralement, oui. Et puis il se trouve que Tottenham a redressé complètement la chose, Dortmund est apparu tout d'un coup comme une équipe bien naïve, et Tottenham en a profité, c'est vrai. Mais je serais prudent, je pense que Tottenham sera prudent ce soir parce qu'ils savent très bien qu'ils sont pas au mieux. Bon, de là à prendre 3-0, c'est autre chose, mais je pense qu'ils sont vraiment pas au mieux et que Dortmund peut au moins les inquiéter.
Ouais, c'est ce qu'on sent dans les propos d'Hugo Lloris quand même, c'est on vient pas fier de notre avantage.
Moi, je pense que Tottenham va marquer et donc à partir du moment où Tottenham marque, il faudrait que Dortmund gagne 5-1. Oui. Donc pour moi c'est pas possible et je pense qu'Harry Kane va se réveiller depuis qu'il est revenu. Non, je crois pas. Il est pas bon depuis qu'il est revenu, mais ça va pas durer. Eriksen est pas génial, mais il suffit d'un éclair pour que ça fasse but. Donc franchement là j'y crois pas du tout. Je pense que Tottenham a de la marge. Après je pense qu'aucune de ces deux équipes n'a le profil d'un vainqueur ni même d'un éventuel demi-finaliste, mais je peux me tromper. C'est pour moi un match assez faible globalement.
C'est un outsider genre Monaco il y a 2 ans, et Monaco avait été en demi-finale. Ça peut arriver. Ça dépend du tirage au quart, évidemment.
C'est vrai. Mais
il faut pas sortir un très gros.
Je pense que Tottenham a tous les moyens pour empêcher Dortmund d'y croire, ne serait-ce qu'une mi-temps.
Alors, peut-être que, David, la chance ou la force de Dortmund, c'est quand même son entraîneur, ce fameux Lucien Favre, un de ces entraîneurs qui, en tout cas, a une philosophie de jeu. On parle souvent des Pep Guardiola, voire Bielsa et tout. Lui aussi, il a quelque chose. On en avait profité quand il était à l'OGC Nice, et on le regrette bien, en Ligue 1. Mais écoutons une de ses directives dans le travail, dans les lignes qu'il suit, et notamment ce qu'il privilégie chez un joueur, son intelligence de jeu.
La perfection, elle n'existe pas, de toute façon. Mais c'est par le travail qu'on peut s'en approcher de la perfection. C'est le plus important, ça. Et pour bien travailler, pour bien progresser, il faut que vous choisissiez des joueurs qui ont l'intelligence de jeu. Si vous prenez des joueurs qui ont une intelligence de jeu moyenne, vous aurez toujours des problèmes. C'est quasiment impossible de les former. Si vous avez des joueurs qui ont l'intelligence de jeu, qui sont nés comme ça, qui savent se déplacer, qui savent où la balle va arriver, qui peuvent anticiper le jeu, lire le jeu, comme on dit en Allemagne, vous avez beaucoup plus de chances de pouvoir progresser avec les joueurs. C'est ça que je privilégie. Mais si un joueur a l'intelligence de jeu, et puis il n'a pas de rythme, il n'a pas de condition physique, il n'a pas de technique, il ne jouera pas au haut niveau.
Lucien Favre qui s'exprimait sur RMC Sport dans l'émission Footissime. C'est sa philosophie, mais on sent qu'il essaye toujours de tirer ses joueurs vers le haut, cet entraîneur David. Est-ce qu'on ne tente pas du résultat?
En fait, là, la description qu'on entendait correspond à la description qu'il fait aussi de Marco Reus, qu'il avait d'ailleurs essayé déjà d'arracher en 2007, donc il y a 12 ans, quand Reus avait encore 17 ans, au Rot-Weiss Halle, où il jouait à l'époque, un petit club allemand, avant même que les deux hommes nouent une relation relation très proche à Mönchengladbach ensuite, quand Favre a enfin réussi à faire venir Marco Reus. Déjà à l'époque, il faisait cette description de son joueur, et c'est le symbole de
d'un joueur parfait.
Voilà, lui. de ce qu'il veut arriver à faire. Et ça pose un petit problème quand même aujourd'hui avec l'effectif de Dortmund, par exemple avec un excellent joueur sur le plan offensif qui est Achraf Hakimi, qui peut être flamboyant, très intéressant offensivement, mais, et ça, ça déplaira forcément à Lucien Favre, est capable de grossières erreurs défensives, alors qu'il occupe un poste avant tout défensif. Et si, contre Tottenham ce soir, il était aligné, par exemple, et je pense qu'il y a un gros doute dans la tête de Favre pour aligner ce jeune homme ou pas, s'il y a une erreur face à un des joueurs que Gilles citait tout à l'heure, Kane, Eriksen, ou même Heung-Min Son aussi, qui a joué d'ailleurs 2 ans en Allemagne à Leverkusen, là, ça pardonnera pas. Donc ça va être peut-être le gros dilemme de Favre. Est-ce que je fais confiance à des joueurs un peu plus expérimentés, même s'ils sont moins offensifs, plus prudents ou pas forcément à leur poste, ou est-ce que je prends plus de risques, ce qui lui ressemble peut-être un peu moins.
Gilles,
deux très bons entraîneurs, Lucien Favre et puis Pochettino en face, mais deux très bons entraîneurs dont la saison pourrait être extrêmement complexe, parce que si Dortmund, après toute l'avance, finit par perdre le titre face, vous le disiez, à son ennemi héréditaire, si Tottenham continue à patiner en championnat...
Ils ont déjà en plus dit adieu aux deux premières places.
Exactement, hein. Donc les deux entraîneurs-là, qui sont deux entraîneurs très intéressants, sur lesquels les grands, très grands clubs européens, encore plus grands que ceux dans lesquels ils officient aujourd'hui, ont les yeux, ces deux entraîneurs-là pourraient être mis en échec et connaître une saison noire.
Ouais, enfin bon.
Ah bah, attendez.
Non, mais même si Dortmund finit deuxième, même à 8 points du Bayern, vous pouvez pas dire que c'est une saison ratée. C'est pas possible.
Et est éliminé en perdant 0-2 encore ce soir face à Tottenham.
Ben, c'est pas possible quand même.
Je sais pas ce qui est possible à Dortmund, mais.
Dortmund n'est pas le Bayern.
Valuez votre nom ce soir.
Dortmund n'est pas le Bayern, la Juve, le PSG, sont des clubs où vous êtes obligé d'avoir le titre. C'est pas obligatoire. Il y a pas que le titre dans la vie, hein, vous savez. Moi, j'entends parler que de titre maintenant.
Ils étaient clairement en course pour ça quand même, Philippe.
Évidemment.
9 points d'avance.
Ils ont 9 points d'avance, donc ils y ont pensé, mais ils y ont pensé très fort d'ailleurs, et il mériterait d'être toujours en tête, parce que le Bayern n'est pas très brillant, mais le Bayern est revenu, c'est un fait.
Ouais, et le Bayern va beaucoup mieux. Écoutons.
Ça sent l'inéluctable.
Encore Lucien Favre à propos de cette intelligence, certes, qu'il faut pour un joueur, mais où aussi tout est en train de changer, ou tout a déjà changé et s'est accéléré sur un terrain de foot.
Technique en mouvement. Technique, pour moi, c'est très très important. Et ça, on doit la travailler. Beaucoup plus. C'est comme un pianiste qui répète les gammes. En 1954, il y avait les championnats du monde à Lausanne, en Suisse. Les joueurs, ils couraient 4 km par match. Maintenant, ils sont à 13. Donc ça fait 3 fois et demi en 65 ans. Et aujourd'hui, c'est des athlètes, ça a complètement changé. Tout va plus vite aujourd'hui. Les avions, Internet, les trains, etc. Et le foot, le sport, ça va de plus en plus vite.
Et oui, ma bonne dame, les temps changent.
Justement, Annie,
c'est intéressant quand même. Hein.
Est-ce que vous m'autorisez juste 10 secondes? Parce Évidemment. Que hier soir, la conférence de presse insipide qui a duré un quart d'heure avec Marco Reus et Lucien Favre. Lucien Favre, la seule chose intéressante de cette conférence de presse, c'est les deux dernières minutes où Lucien Favre, à l'invitation d'une question d'un journaliste, évoque les nouveaux règlements, enfin les nouvelles tendances pour les pénalties avec les mains dans la surface. Et il a dit, Lucien Favre, mais c'est scandaleux, parce que maintenant il a mimé les choses, il a mis les mains derrière le dos, il a dit maintenant faut courir comme ça et les joueurs n'auront plus aucun équilibre et ça ressemble plus à du football. Oui, c'est quelqu'un qui réfléchit aux évolutions de la société, du sport, de son sport dont il est évidemment éperdument amoureux, et c'est quelqu'un qui peut trouver des solutions effectivement. Alors à l'aller, il était grippé, il était même pas au bord du terrain. Il y a besoin d'un joueur comme ça d'un entraîneur comme ça pour une équipe, pour avoir le petit plus qui peut permettre de faire basculer un match.
Gilles, c'est intéressant, toujours des entraîneurs comme ça qui ont un autre langage quand même.
Visionnaire, stratège, tacticien. C'est pour ça que le football est passionnant, parce que les très grands entraîneurs, d'ailleurs, à travers le football, expriment une vision de la vie. Et les grands footballs européens qui nous ont marqués exprimaient ou une vision politique, ou une philosophie, ou quelque chose qui ressemble à de l'art. Donc là, on n'en est pas encore là avec lui, mais c'est vrai que c'est un entraîneur qui dépasse le strict cadre de la pelouse et qui a une vision. Pour lui, le football, c'est la vie. C'est ça qui est passionnant.
Philippe.
Magnifique entraîneur, c'est des vraies personnalités comme en, comme le foot en a besoin. Alors il a, le foot, ce qui est fabuleux, c'est qu'il y a plein de façons de jouer, qu'il y a plein de styles d'hommes. Simeone dans un style totalement opposé et avec des valeurs complètement différentes est un entraîneur passionnant aussi. Il apporte aussi beaucoup de choses, mais évidemment on ne peut qu'être amoureux de. Enfin moi, pour ceux qui aiment le jeu et aiment le foot et aiment le jeu en particulier, on ne peut qu'adorer Favre, Guardiola, Bielsa et autres qui incarne une certaine vision du foot. Gilles l'a très bien dit, c'est pas toujours un amoureux de la beauté du football, Gilles, non. Mais pour une fois, il l'a très bien dit.
Je préfère gagner 1-0.
Non, Gilles adore les dégagements en touche.
Non, Ligue,
c'est le seul passionné des dégagements en touche, c'est sa vertu.
Pour Gilles, je n'ai jamais oublié, le résultat parfait, c'est 0-0.
Absolument, ouais, aucune erreur.
Oui, parce qu'il n'y a pas d'erreur.
Du coup, c'est compliqué.
À propos de Diego Simeone, faut rappeler que le Borussia a battu l'Atlético 4-0, et ça c'était en phase de poule.
Ils veulent s'en servir comme d'un argument, effectivement.
Oui. Ça pourrait être le début d'une chevauchade hein, pour ce soir.
C'était donc ça le mot.
En tout cas, parlez-nous aussi de ce mur jaune.
Oui.
Parce que, évidemment, tout le monde s'en amuse, Dortmund au pied du mur, mais on le connaît, on voit que les joueurs, quand ils vont, c'est pas un virage, ni sud ni nord, c'est pas une tribune Auteuil ou je ne sais quoi. Là, c'est le virage, et c'est vrai que le mur jaune, et c'est vrai qu'à Dortmund, c'est quelque chose d'impressionnant qui joue son rôle aussi pendant un match pour pousser son équipe.
Bien sûr. Alors, sur le plan purement factuel, c'est un stade qui contient 81 000 et quelques dizaines de spectateurs lorsqu'il est plein en championnat.
Il est plein pour 4 ans, je crois, hein, c'est ça, tout comme celui du Bayern. Hein,
en revanche, en configuration européenne, on diminue, alors je ne sais plus si c'est 65, 67, 68 000, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Puisque
72, non, il me semble. Ouais, je crois qu'on perd 8 000 dans le mur, mais ce qui est beaucoup.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. On passe d'une configuration avec des spectateurs qui sont debout à une configuration de place assise. C'est coup, ça change quand même nettement l'envergure de cette tribune qui contient, je crois, 23 ou 25 000 personnes.
Debout, d'ailleurs.
En championnat.
Oui, mais
il y a moins de monde.
C'est le paradoxe.
Effectivement, mais c'est une configuration assez unique qu'il y ait autant de spectateurs droit derrière un but, dans l'axe du but comme cela. Oui.
C'est 24 000 en championnat, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est ça.
Le mur.
C'est assez impressionnant.
Une tribune toute droite de 24 000 derrière un but, c'est assez inouï. Bon, en Coupe d'Europe, c'est 16 000 seulement, mais enfin, ça impressionne quand même.
Et avec ces drapeaux, avec ces messages, qui font acte de présence pendant tout le match, ils lâchent pas, ça c'est souvent ça le public allemand, même quand c'est un peu la bérésine.
C'est vrai, c'est vrai. Particulièrement dans des clubs comme cela qui sont... le mot est peut-être un peu galvaudé, mais plus authentique que un club comme le Bayern qui est très vitrine actuellement et dans lequel on peut avoir un stade
Hollywood.
Sinon silencieux, du moins parfois un peu spectateur. C'est pas le cas à Dortmund, c'est certain.
7% de chance selon les statistiques menées dans les matchs de Coupe d'Europe précédents de se qualifier après avoir perdu 3-0 au retour. Alors qui y croit?
Pas du tout. Non, j'y crois pas. Je vois un match nul entre les deux équipes. Je vois pas du tout Dortmund le faire, mais je peux tout à fait me tromper. Hein.
Philippe, vous non plus.
Non, victoire de Dortmund, mais insuffisante pour se qualifier, je pense.
Ce à quoi je crois, moi, c'est que ça peut trembler pendant un moment, qu'il peut y avoir un quart d'heure, 20 minutes, peut-être une demi-heure de folie, mais Dortmund sera puni, encaissera un but, et même avec une victoire, on sera loin du compte.
Et vous, Christophe, je sais.
Je sais pas, il y a des surprises tous les ans. Ça va tomber. Il y a eu le PSG et Barcelone, il y a eu la Roma contre le Barça. Voilà.
C'est plus possible qu'avant les remontées, pour une raison mécanique, c'est que avant, le temps de jeu est bien supérieur, tout simplement. Aujourd'hui, sur un gros match, on peut jouer 55-60 minutes. Alors qu'avant, si vous preniez des Italiens qui dégageaient en touche, qui accrochaient les maillots,
c'était 45 minutes,
qui,
en tout cas,
qui attendaient, qui passaient le ballon à leur gardien, qui ramassaient, qui tombaient, qui la donnaient à un autre, qui lui redonnaient, etc. Le temps de jeu, quand vous arriviez à la 80e, c'était plus possible de marquer, il restait 2 minutes, quoi, en gros.
Maintenant, avec la VAR, on a au moins 5 minutes d'arrêt.
Et puis, avec le VAR, il y a plein de pénalties. C'est avoir un pénalty est devenu extrêmement facile. Avant, en Coupe d'Europe, les arbitres hésitaient avant de siffler un pénalty. Maintenant, ils savent qu'il y a la vidéo derrière, donc ils sifflent déjà. Puis après, on regarde si effectivement, oh, bah oui, vaguement, bon, allez, hop, c'est bon.
Michel Platini.
Tout le monde est content, tout le monde est content, il y a plein de buts, il y a plein de buts, c'est formidable.
Il se passe des choses, donc voilà, rendez-vous. Ça sera 21h, alors il faudra avoir deux écrans, il faudra loucher un peu pour suivre ces deux matchs qui sont tout aussi passionnants.
Mais oui, et puis on avait hâte des grandes soirées à élimination directe en Ligue des Champions, là, ça y est, on
oui,
y est.
La première, donc, en fait.
Voilà,
oui,
c'est vrai que chacun donne son pronostic, on peut se tromper, mais il y a du suspense. C'est pour ça que ces poules si lucratives, parfois, voilà, sont largement moins passionnantes que ces éliminations directes.
Coup d'envoi à 21h. 20h en temps universel. Oui, oui. Excusez-moi, 20h en temps universel, on est encore en horaire d'hiver. Allez, on va aller voir les jeunes filles maintenant. Et vous, Éric Chorin, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Elles ont frappé fort, les filles, hier, Eric. On aurait dit qu'elles voulaient se défouler, les joueuses de l'équipe de France qui ont battu l'Uruguay par 6-0. Tout à l'heure, on parlait de golf, on peut parler de tennis aussi, hein, quand on dit 6-0. Dans le stade de Tours, 11 000 spectateurs, 3 buts à chaque mi-temps. Finalement, comme ça, ça fait tenir le spectacle. Est-ce qu'elles voulaient surtout faire oublier leur récente déconvenue face à l'Allemagne, ou ont-elles réussi à la faire oublier?
En tout cas, oui, c'était l'objectif affiché par Corinne Diacre et les joueuses. Et ce discours revenait comme un leitmotiv après la rencontre en zone mixte. Elles avaient à cœur d'effacer ce qui était quand même une sorte de coup d'arrêt dans leur progression. Elles avaient remporté leurs 8 matchs précédents avant cette défaite face à l'Allemagne, 1-0. Donc elles avaient à cœur de retrouver la victoire et le chemin défilait. Mais quoi retenir d'autre de ce match? Il suffisait de voir les deux équipes alignées face à nous, face à la tribune média lors des hymnes nationaux, pour se rendre compte qu'on avait une équipe de joueuses professionnelles et puis une équipe je ne sais pas, du temps passé, un peu amateur. Les physiques étaient loin d'être affûtées du côté des Uruguayennes. La gardienne de but en était la parfaite illustration, donc elle a au moins 2 buts pour elle, hein, sur les 3 premiers. Donc on a changé de gardienne en deuxième mi-temps, ça n'était pas vraiment meilleur. Difficile de
elles
tirer
ne
des enseignements.
Elles ne sont pas à la Coupe du Monde, hein, donc c'est effectivement pas le même niveau.
Oui, les Argentines sont à la Coupe du Monde et pourtant les Uruguayennes avaient battu les Argentines 1-0. Donc on se demande aussi quel est le niveau des Argentines malgré tout. Donc c'est un petit peu difficile. C'était vraiment comme en boxe, le sparring partner idéal pour essayer de se remettre un petit peu en selle sans trop forcer.
Qu'est-ce que vous aviez prévu, je me souviens, à l'issue du match contre l'Allemagne, en se disant pauvres Uruguayennes.
Elles vont manger un peu.
Voilà. Oui, oui. Philippe.
Non, mais c'est un sport en développement, le football féminin. Donc on est encore dans une phase où effectivement il y a un nombre minimal de nations qui sont au premier rang. Le rugby l'a longtemps vécu, ça commence à bouger, et il y a d'autres sports de la sorte, hein. Bon,
avec des gros écarts, donc
il y a des énormes écarts évidemment,
les équipes.
En fait, l'Uruguay a pas progressé par rapport à ce qu'on avait vu en 2011. Alors je m'en souviens pas, hein, j'avoue, mais ce 8-0 de l'équipe de France en 2011 contre l'Uruguay,
vous n'étiez pas à Pointe-à-Pitre?
Non, je n'étais pas à Pointe-à-Pitre. Mais voilà, donc c'est pas forcément
très
représentatif.
Il faut mettre un point d'honneur à aller à Pointe-à-Pitre.
La prochaine fois, volontiers.
Non, il n'y a pas eu de progression, en effet, de cette équipe uruguayenne, mais l'équipe de France elle-même, cette séquence-là, c'est pas celle, effectivement, qui aura été celle du progrès aussi pour Corinne Diacre et les enseignements à tirer. Elle a d'ailleurs dit qu'elle avait besoin de se poser pour tirer des enseignements de l'ensemble de la séquence, hein, de ces deux matchs, avant une séquence à la fin du mois qui est autrement plus intéressante, même s'il y avait l'Allemagne, parce qu'on va affronter à la fois le Japon et le Danemark coup sur coup. Le Japon, c'est quand même les vice-championnes du monde. Le Danemark, c'est les vice-championnes d'Europe. Donc on est face à une séquence beaucoup plus intéressante. Et quand on parlera de turnover, ça aura du sens. Là, il y a eu 5 changements d'un match sur l'autre dans les titulaires. Les 6 buts ont été marqués par 5 joueuses qui n'étaient pas titulaires lors du premier match. Voilà, on se rend compte que c'est difficile
on va y
tirer
venir
des
ce
enseignements
turnover.
Très clairs.
Oui.
Ouais.
Gilles.
Ce dont on parlait il y a quelques instants, c'est encore le petit problème du foot féminin, qui est un sport effectivement magnifique, en développement, c'est le déséquilibre. Quand vous avez effectivement la France qui rencontre la 74e nation mondiale, l'Uruguay, c'est un peu comme encore dans le championnat de France. Toutes les équipes ne sont pas ultra compétitives, au sens où il y a encore des inégalités.
Et même en Coupe d'Europe, puisque Lyon, on se souvient, il y a des scores fleuves en demi-finale.
Voilà, c'est le petit manque de crédibilité encore de ce sport, mais qui est en complète émergence.
Alors justement, Eric, vous avez rencontré les joueuses et certaines joueuses à la fin du match, notamment Valérie Gauvin. On va l'écouter parce que c'était une de celles justement qui joue sa place, parce qu'elles sont là aussi pour ça, les filles. Elles,
oui, c'est
le côté sport sportif, c'est essayer d'être présente.
C'est un peu l'intérêt de ce match, effectivement, c'est qu'il y a des joueuses qui ont été un petit peu relancées, qu'on voyait un petit peu moins ces derniers temps, comme Viviane Asseyi, qui avait été un petit peu doublée par Khadija Diani, qui joue au Paris Saint-Germain, à son poste sur les ailes. Valérie Gauvin, c'est un peu la Olivier Giroud, hein, de l'équipe de France féminine. Elle est solide, on lui promet plein de choses, mais elle marque très peu, finalement, en équipe de France. Donc, pour son moral et sa confiance, c'est pas très facile. Elle en a marqué deux hier, même s'il y en a un. Faut reconnaître qu'elle a juste effleuré un ballon qui allait directement dans le but parce que la gardienne n'y était pas du tout. Mais malgré tout, ça lui a fait du bien. Et elle a envie d'obtenir sa place à un poste, notamment d'avant-centre, où Marie-Antoinette Katoto, la meilleure buteuse du championnat, n'a pas été très probante face à l'Allemagne lors de la rencontre précédente.
On va l'écouter, Valérie Gauvin.
Personnellement, c'est vrai que ça m'a fait du bien de pouvoir de recommencer un match, de retrouver mes marques aussi.
Parce qu'on a le sentiment, en tout cas c'est mon sentiment, que dans l'axe, tout n'est pas encore joué. Hein.
Ça c'est une question assez compliquée, mais c'est vrai que je pense que la porte est ouverte et c'est pour ça qu'il faut que je travaille encore pour que justement je confirme que je peux avoir ma place et je ferai tout en tout cas pour ça.
Eric, c'est le 11 finalement de Corinna qui est encore très ouvert ou plutôt le groupe dans l'ensemble, c'est-à-dire les 23?
Il y a quelques places à prendre dans le groupe des 23 parce que dans l'axe, justement, Marie-Antoinette Katoto, que tout le monde a envie de voir. Il y a encore quelques matchs, elle a été titularisée pour la première fois finalement lors de ce match face à l'Allemagne. Elle a été rentrée en jeu face aux Américaines, ça avait été plutôt intéressant. Mais bon, elle a pas donné entière satisfaction. Valérie Gauvin, qui est un peu justement, comme je vous disais, la Olivier Giroud, c'est-à-dire que c'est un peu un point de fixation pour les rapides ailières et notamment Eugénie Le Sommer qui va marquer plus à côté d'elle.
Eugénie Le Sommer,
qui est donc la grande absente de cette séquence. Avec Gridge Mbokbati, la joueuse de la défense centrale qui joue habituellement aux côtés de Wendy Renard. Voilà, il y a des places à prendre. Il y a Viviane Asseyi aussi qui est de temps en temps dans l'axe. Elle n'a pas encore déterminé qui était son avant-centre, alors que sur les couloirs, il y a des joueuses qui ont déjà leur place, notamment Eugénie Le Sommer sur le côté gauche, mais il y a aussi une joueuse comme Delphine Cascarino, la lyonnaise, qui est prometteuse, mais qui ne tient pas toujours 90 minutes.
Gilles.
Moi, ce que j'aime bien dans la méthode utilisée en amont de cette épreuve mondiale si importante, je trouve que Corinne Diacre travaille un peu comme des Aimé Jacquet ou des Deschamps, c'est-à-dire large revue d'effectifs, on resserre jusqu'au bout,
oui.
On n'exclut pas la petite jeune qui peut apporter, comme Jacquet l'avait fait, comme Deschamps est capable de le faire, et je trouve que c'est très professionnel, ça n'a pas toujours été le cas de mon point de vue, des sélectionneurs de l'équipe de France féminine, et là je trouve qu'on est sur un travail extrêmement pointu, qui correspond à l'ampleur de l'événement.
Oui, c'est très travaillé, c'est très pensé, effectivement, méthodique. C'est très méthodique. Elle a resserré, elle avait fait une large revue d'effectifs quand elle est arrivée. Hein. Beaucoup d'anciennes qui sont revenues depuis, elles n'y étaient pas lors des premières rencontres. Elles sont revenues à des postes où elles étaient sans doute indispensables, parce qu'il n'y a pas vraiment de remplaçante à Gaëtan Tinet. On l'a vu, on a essayé hier une autre parisienne, Grace Gaillereau, qui ne joue pas, qui est plutôt un peu plus relayeuse. On a essayé de la mettre un petit peu devant. Elle n'a pas trouvé sa place. Elle n'a pas réussi à vraiment occuper le terrain et occuper cette place. Élise Bussaglia, qui est une vraie ancienne aussi, est revenue dans cette équipe. Elle a resserré donc après à 30-35 pour en avoir 23 à la fin. Donc on n'est pas loin du compte. Le 11 de départ, elle en connaît une bonne partie. Il y a beaucoup de Lyonnaises, hein, ça n'étonnera personne. Il y a quelques postes qui sont occupés par d'autres joueuses, mais il reste encore des choses à trouver dans l'axe et des alternatives dans les couloirs également. Le milieu de terrain et l'organisation de jeu est encore à parfaire, et notamment le travail dans l'axe, parce que sur les côtés elles ont de vraies solutions, mais quand une équipe essaye de bloquer les couloirs comme les Américaines l'ont fait pour le côté gauche, ça marche. Le côté gauche avait été bloqué, il a fallu passer par la droite, elle avait trouvé des solutions, mais là face à une équipe d'Allemagne qui avait décidé d'avoir trois centrales et deux latérales pour couper justement les extérieurs, il n'y avait plus de solution pour les Bleus. Et un gros problème encore, c'est l'énergie, c'est l'engagement qu'on doit mettre dès la première minute, et elles ont encore du mal à la mettre. Elles sont trop gentilles.
Est-ce que c'est pourtant prometteur, David, pour vous, cette préparation qu'on voit maintenant à la loupe, hein, de l'équipe de France, on peut la voir sur des chaînes facilement désormais. Est-ce que c'est aussi ce qui peut les pousser finalement à se surpasser, et ça va être à domicile, elles ont un poids moral aussi.
Oui, alors vous ressortirez les bandes si je me suis trompé après le tournoi, mais j'ai toujours,
non, on fera pas ça.
Toujours la sensation tenace quand même que, alors ça correspond peut-être à certains des chantiers qu'évoquait Eric à l'instant, mais j'ai toujours la sensation tenace qu'il manque encore quelque chose pour s'imposer à l'esprit de l'adversaire. par exemple, quand on rencontre l'Allemagne aujourd'hui, on n'est pas supérieur pour différentes raisons. Alors que l'Allemagne, on en parlait déjà il y a 15 jours, je me souviens, a eu elle aussi à renouveler beaucoup ses générations, a intégrer dans le groupe beaucoup de très jeunes joueuses. Et j'ai pas la sensation que l'équipe de France soit encore avec l'envergure de se faire craindre. Alors il manque encore peut-être quelques petites choses. Est-ce que c'est ce dont parlait Eric, c'est peut-être la dimension la plus compliquée, la dimension psychologique, le petit détail professionnel au plus haut niveau.
Un cap à passer, peut-être, comme on l'a vu à un certain moment
ça sera
chez les garçons.
Cette année, Annie, justement.
Écoutez-moi, il m'a suffi juste d'une zone mixte avec Amandine Henry, la capitaine de cette équipe, qui a été championne des États-Unis aussi, qui a de l'expérience. Je l'ai vue blêmir devant moi quand je lui ai demandé si elle n'était pas revenue en arrière après cette défaite face à l'Allemagne, alors qu'elles avaient perdu il y a un an face à cette même équipe. Et là, on se dit, elles sont encore fragiles.
Et ben, c'est ce qu'on verra et on les suivra. Merci beaucoup d'avoir participé à cette
fragile, mais.